Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Robert. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
C'est un grand plaisir de le faire.
Tu es le président de l'Association internationale des amis de Tommy Ungerer et ancien directeur du Centre culturel franco-allemand de Karlsruhe.
Exactement, c'est mes deux dernières fonctions. Enfin, disons, les amis de Tommy, je les préside toujours, mais Karlsruhe, le Centre culturel franco-allemand, je suis à la retraite depuis 3 ans, donc après 20 ans de direction de cette structure culturelle.
Alors, j'aimerais tout d'abord qu'on parle de ton attachement au patrimoine culturel alsacien et franco-allemand. Et je veux savoir comment ça t'est venu.
Alors, comment tout cet attachement m'est venu ? Alors, je dois dire d'abord que pour toute ma vie, j'ai eu un allié de poids. C'est le hasard. Le hasard m'a toujours secouru dans tout ce que je faisais dans ma vie. Depuis les débuts de ma vie, parce que j'étais orphelin très tôt, à l'âge de 5 ans, élevé par 22 religieuses au Villerhof à Ilsenheim, jusqu'à ensuite toute ma carrière, qu'elle soit publique ou même dans ma vie privée.
D'accord. Et comment...
Alors, mon attachement, comment cela m'est venu ? D'abord, ayant été orphelin, j'avais pas de parents à qui m'attacher et toute ma vie j'étais un homme, même si paradoxalement j'ai toujours été très entouré, je reste malgré tout fondamentalement un solitaire. Et donc dans la vie on a besoin de causes pour lesquelles on se bat. Alors jeune, évidemment, je m'étais attaché à la religion, quand j'étais chez les religieuses d'abord, chez les pères assomptionnistes ensuite. Mais après, quand j'ai travaillé à l'étranger pour le Quai d'Orsay, loin de l'Alsace, je me suis attaché à ma région de naissance et je me suis fortement engagé pour la région Alsace. Cet engagement s'est d'ailleurs accru en 1981, quand à Hambourg, j'ai rencontré Tommy Ungerer. Et là, on s'est beaucoup battu pour l'Alsace à Hambourg, au point de faire la plus grande semaine culturelle pour la région Alsace dans le monde en 1987. On avait attiré 350 Alsaciens, de Pierre Flimelin en passant par Germain Muller, ou Roger Siffer, ou Liselotte Ham, Jean-Marie Hummel, ou tous les plus grands artistes, les plus grands écrivains de notre région. Et depuis lors, je suis toujours, toujours resté attaché à l'Alsace, au point de créer à Madrid, où j'ai été nommé ensuite comme attaché à l'ambassade, l'Association espagnole des Amis de l'Alsace. Puis, dans la foulée, les Catalans sont toujours à part, l'Association des Catalanes des Amis de l'Alsace.
Donc, tu as contribué à l'Alsace un peu partout dans le monde ?
Voilà, j'ai apporté ma pierre à l'édifice de la connaissance de notre région, dans les différents postes où j'ai été. D'ailleurs, le dernier poste à Karlsruhe, l'axe de mon travail pendant plus de 20 ans, a été de développer le transfrontalier, ce qui m'a, disons, beaucoup aidé pour ma notoriété dans le domaine culturel.
D'accord. Et il y a quelque chose dont tu es fier ?
Alors, la fierté, d'abord, disons que tout ce que j'ai mené dans ma carrière, je l'ai toujours mené avec des équipes. Ensuite, par rapport, ma fierté, c'est... Oui, c'est sûrement tout ce que j'ai pu mener comme travail aux côtés de Tommy Ungerer. Rien que le fait d'avoir créé une revue qui s'appelle Tommyscope et de l'avoir menée jusqu'à aujourd'hui, et je continue à faire ce travail de rédacteur en chef de cette revue, après que pendant 10 ans, j'avais un autre ami qui est malheureusement décédé il y a quelques jours, Yves Dirheimer, un grand rhumatologue qui était l'ami d'enfance de Tommy. On a fait cette revue depuis 20 ans, ça fait 2500 pages qui sont absolument un document essentiel sur la vie et l'œuvre de Tommy Ungerer.
Donc, tu connais énormément d'artistes à Strasbourg ?
Alors, dans mes fonctions de responsable culturel à Karlsruhe, directeur de l'Institut franco-allemand, j'organisais plus de 80 manifestations par an. Et j'ai, comme j'ai dit tout à l'heure, privilégié le transfrontalier, c'est-à-dire que beaucoup d'artistes alsaciens venaient exposer à Karlsruhe. J'ai organisé plus de 300 expositions, une douzaine, 10, 12 par an, pendant plus de 20 ans. Donc, ce qui fait que pratiquement plus de 200 artistes de notre région ont pu exposer leurs travaux à Karlsruhe. C'était presque un passage obligé pour un artiste de venir exposer. Ce qui fait que je les connais pratiquement tous, que j'ai aussi une grande collection d'œuvres d'art parce que j'en ai beaucoup acheté lors des expositions, et qu'aujourd'hui encore, quand je peux soutenir un jeune artiste, je le fais volontiers.
Parce qu'on ne se rend pas compte, 200, c'est...
C'est beaucoup.
Oui, c'est beaucoup pour une petite région.
Oui, oui, mais c'est une région qui a une vie culturelle beaucoup plus intense que les autres régions. D'abord, ne serait-ce qu'au niveau des livres, l'Alsace est la seule région en France où les livres parus sur cette région ont un nom. Ce sont les Alsatiques. Et ici, chez moi, il y a un mur plein avec des centaines d'Alsatiques. Et les sociétés d'histoire sont aussi très actives. Bon, il y a sûrement une part d'héritage de notre relation à l'Allemagne. En Allemagne, il y a beaucoup plus de sociétés historiques, de structures associatives qu'en France. Et donc, l'Alsace, qui est entre les deux pays, a récupéré le meilleur des deux pays.
Le patrimoine.
Tout ce qui est patrimoine, historique, culturel, les sociétés d'histoire en Alsace sont parmi les plus vivantes de France.
Justement, moi j'ai l'impression, en tant qu'Alsacienne, qu'il y a toujours, il y a toujours un conflit un peu entre les Alsaciens et les Allemands. J'ai l'impression qu'on ne s'aime pas.
Alors, bon, il y a d'abord des raisons historiques. Ce va-et-vient des Alsaciens entre la France et l'Allemagne, bon, qui a commencé avec la guerre de 70, qui a vu toute une classe intellectuelle quitter l'Alsace, partir à Paris, à New York, en Algérie, de nombreux Alsaciens. Il y a eu un appauvrissement terrible après la guerre de 70 dans notre région. Ensuite, après la fin de la Première Guerre mondiale, il y a de nouveau un appauvrissement parce que tous les Allemands qui s'étaient installés en Alsace, il y avait des milliers de professeurs, de médecins qui ont dû quitter l'Alsace. Disons, il y a toujours eu un mépris de la France pour l'Alsace lorsqu'elle a recouvré, après la guerre, notre région. Ça veut dire qu'ils ne reconnaissaient pas tous les examens que les locaux ici, que les Alsaciens, avaient passé sous le régime allemand. Ils devaient refaire tous les examens. Donc, tu aurais pu avoir un prix Nobel qui aurait dû repasser ses examens de médecine. C'était une absurdité et on a chassé tous les Allemands, même ceux qui étaient attachés à l'Alsace. Ils ont dû quitter notre ville, notre région. Donc, après, il y a eu le problème linguistique. Problème linguistique énorme parce que les Alsaciens du temps de l'Allemagne, donc tout était en allemand, la BNU à Strasbourg et la bibliothèque qui recèle le plus de livres, c'est par millions dans notre région. Et il a fallu aussi rebâtir notre bibliothèque qui avait été détruite par les Allemands en 1870. Toujours est-il que ce problème linguistique qui fait que après-guerre les gens ne parlaient pas français et qu'il a fallu de nouveau réapprendre tout, qui a eu un combat absolument scandaleux de la République française contre le dialecte alsacien, pas seulement le dialecte alsacien, les Bretons et les Basques ont souffert comme nous, mais cette espèce de mépris pour la langue a fait aussi que les gens n'avaient pas trop le courage de parler leur langue et ont dû se battre pour bien apprendre le français. Tout cela a créé une situation compliquée. Peut-être même on peut expliquer la faiblesse de la classe politique alsacienne à travers toute cette histoire. Des fuites des intellectuels en 70, à la fuite des Allemands en 18, et puis à ce va-et-vient permanent entre l'Allemagne et la France. Un territoire riche, intéressant, mais toujours avec plein de problèmes que beaucoup d'Alsaciens ont décrit dans des ouvrages passionnants, comme par exemple la psychanalyse de l'Alsace. Ce va-et-vient crée des problèmes psychanalytiques.
D'accord. On est quand même un peu une région à part, je trouve, avec une mentalité à part aussi.
Oui, on a un caractère qui est bien différent du reste de la France. Comme je disais tout à l'heure, c'est, même dans la cuisine, on prend le meilleur des deux pays. De la France comme de l'Allemagne, même si je préfère tout de même encore la France. Mais au niveau du caractère, il y a tout de même aussi cette rigueur allemande, qui était vraie il y a quelques années, qu'il est de moins en moins vrai. Je veux dire, tout à l'heure tu disais que les Alsaciens n'aiment pas trop l'Allemagne. Alors après la Deuxième Guerre mondiale, c'est tout à fait normal que les Alsaciens se sentaient, n'aiment pas du tout l'Allemagne. Je veux dire, ils avaient souffert, on les a reconnus comme Allemands alors qu'ils ne voulaient pas être Allemands. Ensuite, ils ont été engagés dans l'armée allemande. Ils ont dû combattre sur les fronts les plus durs, comme par exemple le front russe. Donc tout ça, ça fait que les Alsaciens n'aimaient pas les Allemands. On ne voulait pas parler alsacien parce que l'alsacien était trop proche de l'Allemagne. Et donc, on a gardé. Alors, aujourd'hui, les jeunes, c'est un peu différent. Les jeunes, on est beaucoup plus universaliste aujourd'hui à travers les médias, à travers tous ces nouveaux médias, Internet, Facebook, toute cette structure, ça fait qu'on se sent un peu international. On correspond aussi bien avec un Américain qu'un Chinois par Internet qu'avec un Allemand. Ce qui était différent autrefois, il fallait bouger. Il fallait aller en Allemagne pour contacter. C'était une chose totalement différente. C'est d'ailleurs aussi, je ne sais pas si tu veux parler du réseau maintenant, ou c'est plus tard.
On peut
passer au réseau. Justement, c'est la même chose pour le réseau. Aujourd'hui, alors créer un réseau, on dit que j'ai un réseau digne des meilleurs hommes d'affaires ou des meilleurs communicants. Alors, d'abord, il faut dire qu'autrefois, créer un réseau, il y a encore 15-20 ans, quand il n'y avait pas Facebook ou les autres sites, c'était beaucoup plus difficile. Alors moi, j'utilisais un peu dans mon centre culturel les stratégies des hommes politiques. C'est-à-dire, il faut beaucoup, beaucoup écrire. J'aimais écrire et en plus j'écris une très belle écriture calligraphique. Et lorsque j'écrivais à des mécènes, comme par exemple le grand homme d'affaires Wurth, il adorait mes lettres écrites à la main. Mais en plus, j'ai formé à peu près 1200 stagiaires et je leur ai appris comment se créer un réseau. Dès que dans la ville de Karlsruhe, il y avait un nouveau, responsable de la poste ou en politique, un nouveau maire ou de nouvelles élections, au Bundestag ou au Bundesrat, dès qu'il y avait de nouvelles élections, on écrivait toujours aux hommes politiques. Et chaque année, lorsqu'il y avait les bilans des grands établissements financiers ou les entreprises, les grosses entreprises, j'écrivais une lettre pour les féliciter. Les gens, ils aiment bien quand on leur dit « bravo, vous êtes extraordinaire ». Mmh. Il faut toujours schmeicheln, les caresser dans le sens du poil. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Et sur les 20 instituts français qu'il y a en Allemagne à l'époque, j'étais celui qui rentrait le plus d'argent du mécénat. Parce que j'avais cette stratégie.
Mais comment tu as pensé à faire cette stratégie ?
Ben, j'ai aussi là, travaillé longtemps avec André Borde, qui est mort il y a quelques années, qui était le ministre des anciens combattants sous De Gaulle et ensuite secrétaire d'État à l'intérieur sous Pompidou. Et à la fin, il s'occupait du franco-allemand. Il était président de la commission interministérielle franco-allemande et j'étais un peu son bras droit. Et lui, il écrivait tout le temps. Dès lors qu'il y avait la promotion de la Légion d'honneur qui était publiée au journal officiel, il écrivait à chaque promu. Donc, il avait une stratégie qui a fonctionné. La preuve, chez moi, ça a très bien fonctionné. Maintenant que je suis à la retraite, je n'écris plus autant. Je reste fixé sur quelques mécènes qui aiment les œuvres d'art que je collectionne. Mais autrefois, j'écrivais énormément.
Mais genre combien de lettres par jour ou par semaine ?
Ben, quand j'étais directeur à Karlsruhe, on écrivait facile une cinquantaine, voire une centaine de lettres.
Par
semaine.
Hein. Oui.
Mais c'est beaucoup, c'est énorme, c'est du travail. Il faut classer tout ça, il faut l'enregistrer, suivre un petit peu les histoires de nos mécènes, suivre la politique locale. Il faut toujours être ouvert à tout.
Oui, il faut être. Je pense qu'il ne faut pas prendre trop parti non plus.
Oui, il faut essayer de rester indépendant. Aujourd'hui que je suis retraité, je peux dire plus facilement mes idées. Autrefois, quand j'étais en fonction, j'avais le devoir de tout fonctionnaire, de ne pas prendre position. Mais aujourd'hui, je m'en fous de ce que les gens pensent de mes positions. Mais je les mets sur Facebook, j'ai 5000 amis, sur les réseaux Instagram ou Snapchat, je suis aussi présent.
Snapchat.
Oui, sur Snapchat. Bon, je ne suis pas encore sur TikTok, il faut que je me mette à TikTok. Mais voilà, si on veut rester dans la course, il faut essayer d'être présent. Moi, c'est plus dans mes fonctions de président des Amis de Tommy Ungerer, parce que je continue à me battre pour faire connaître son œuvre, son message, le message de Tommy qui est important, qui est un homme d'ouverture, la lutte contre la guerre, l'ouverture, disons le partage, la lutte contre le racisme. C'était un des fondamentaux de Tommy quand il était aux États-Unis. Son célèbre dessin « Black Power, White Power » qui montrait une carte à jouer avec un jeune noir et un blanc qui se mangeaient chacun le pied. Ou alors son dessin qu'il a fait pour le Conseil de l'Europe, où il était ambassadeur de bonne volonté pour l'éducation et l'enfance. Il avait fait un joli dessin avec un pingouin, à sa droite un jeune garçon blanc et une jeune fille noire. « I'm black, I'm white, I'm black and white ». Donc voilà, ce problème de couleur, il a toujours lutté contre le racisme. Et en plus, paradoxalement, c'est un monsieur qui a beaucoup. Il a écrit 87 livres pour enfants. Et tout le monde le sait, Tommy a toujours eu une voix très originale pour élever les enfants. Il a toujours dit il faut traumatiser les enfants.
Il l'a fait. Moi, il me l'a fait. Avec moi, je sais, L'Ogre. C'était avec L'Ogre.
L'Ogre, Zeralda.
Ah ouais, non, mais c'était un enfer. J'en ai fait vraiment des cauchemars. Et je me rappelle encore du cauchemar.
Oui.
Donc, il a réussi.
Voilà, alors chaque livre pour enfants avait une thématique. C'est...
Mais il voulait, pourquoi il voulait traumatiser? Pourquoi il a cette philosophie?
Parce qu'il faut avoir peur. Il faut avoir peur pour pouvoir être sur ses gardes. Lorsque Tommy ne roulait plus depuis longtemps, il était trop distrait. Mais quand ses enfants étaient encore tout jeunes, de 3 ans, 4 ans, et qu'ils roulaient ensemble sur les routes d'Irlande, il a vécu 50 ans dans le sud de l'Irlande, dans le comté de Cork, quand il faisait la promenade du dimanche et qu'il voyait sur la route un animal écrasé, il arrêtait la voiture, où il demandait à son épouse Yvonne de s'arrêter, il prenait les enfants, il leur montrait l'animal écrasé, il disait « Voilà, si tu ne fais pas attention, voilà ce qui t'attend. » Donc, c'est un peu par la peur aussi, pour être sur ses gardes. Mmh. Et il leur apprenait, chaque fois qu'ils voyageaient et qu'ils entraient dans un hôtel, il disait à ses enfants « Qu'est-ce qu'on fait en premier ?» Eh bien, on regarde tous les chemins de fuite de l'immeuble.
D'accord.
Toujours être éveillé, être conscient de tout.
Oui, voilà, par rapport à ça. Il gardait donc toutes les issues.
Oui, il regardait les issues de secours. Tout de suite, dès qu'ils arrivaient dans un hôtel, au cas où il y aurait eu un incendie.
Mais lui, mais comment ça l'est venu? Il a eu un traumatisme? Mais
bon, c'est un enfant de la guerre.
Ah oui, voilà.
Ben,
des deux guerres. Non,
39-45. Mais, par exemple, ce matin, il y a les pompiers qui sont intervenus, trois beaux pompiers d'ailleurs, ils sont intervenus à l'étage en dessous de chez moi, au troisième. Heureusement, j'avais le portable des propriétaires de l'appartement, parce qu'il y avait des amis à eux qui étaient là-dedans. Mais si je n'avais pas eu leur portable, les pompiers avaient la hache, ils fracturaient la porte. Donc, on a évité ça. Il faut toujours avoir des côtés pratiques. Mmh. Du coup, je vais diffuser dans tout l'immeuble mon portable si un jour il y a quelque chose. Mmh. Il faut être prévoyant. C'est un homme très pragmatique. Tommy est un grand écrivain, un grand artiste, un grand homme de culture. Il lisait énormément. Mais il est aussi d'abord un homme pratique. Il savait tout faire de ses mains. Après avoir quitté l'Alsace, il était parti à New York. Et de New York, il est ensuite parti 2 ans au Canada, où il a vécu sur une île abandonnée un peu. Et là, avec son épouse, ils élevaient des animaux. Et ils tuaient lui-même le cochon. Il disait toujours, je suis beaucoup plus fier d'être un bon boucher que d'être un grand dessinateur. Et il faisait sa propre saucisse, son speck, son jambon, tout.
J'ai l'impression qu'il a vécu 1000 vies. Mais j'ai l'impression que tu n'es pas un peu effacé, toi, de ta vie pour... Enfin, tu en parles beaucoup de lui, mais tu parles beaucoup moins de toi, je trouve.
Oui, mais ma vie, elle s'est calquée presque, on pourrait dire, sur celle de Tommy. Mmh. À un moment donné, je l'ai un peu suivi partout. Lorsque, après Hambourg, on était très amis, on a fait cette semaine alsacienne qui était extraordinaire. Je suis parti à Madrid comme attaché d'ambassade. J'ai travaillé 4 ans là-bas, mais au bout de la 4e année, Tommy me téléphone un jour. « Robert, viens, j'ai besoin de toi. Je crée une structure culturelle franco-allemande. » Eh bien, j'ai abandonné ma carrière diplomatique pour revenir en Alsace et suivre Tommy.
Mais... Il y a un article que tu m'as dit où ça parle de vous, etc., de votre rencontre. Mais oui. Moi, j'aimerais bien qu'on en parle là et qu'on ait un deuxième...
Disons, la rencontre avec Tommy s'est faite à Hambourg.
Il y a 40 ans, non?
En 1981.
Oui.
Oui, ça fait 40 ans. Donc, moi, j'étais en poste. Si tu veux, après l'orphelinat et les curés, je suis allé au petit séminaire et au grand séminaire. Et à quelques mois de l'ordination pour être curé, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma voie. Et donc, j'ai suivi des études d'histoire pour devenir prof d'histoire. Et j'ai enseigné 1 an en France, dans un petit village à Lavalque. Et de là, je suis parti dans le désert du Sahara pendant 3 ans, enseigner le français, c'était un peu ma contribution à l'aide au développement. Donc, j'étais en Algérie, près de Biskra, et pendant 3 ans, j'ai enseigné le français dans un lycée. Bon, c'était un lycée, il y avait 600 élèves, et tout de même, on était dans le désert, donc il n'y avait que 20 filles et 580 garçons. Il n'y avait que les filles de la nomenclatura. Et en 1981, j'ai quitté l'Algérie pour aller à Hambourg, où j'étais responsable culturel pour l'Allemagne du Nord.
Et là, tu as vu Tommy.
Et là, Tommy était à l'époque à Hambourg. Il travaillait pour les journaux de Hambourg. Il faisait les couvertures du Spiegel, Stern, Zeit, un peu tous les médias. Il travaillait beaucoup. Et il s'était aussi enfermé 3 mois dans la rue avec tous les bordels, la Herbertstrasse, où il y avait les dominas, les femmes qui étaient des maîtresses femmes, où les gens payaient pour être battus. Mmh. Et donc le SM, il a écrit un livre qui s'appelle SM en français, ou les anges gardiens de l'enfer. Et donc après 3 mois, il a publié ce livre que même les psychiatres ont apprécié parce qu'ils ont dit là où notre, disons, pouvoir médical s'arrête, il y a ensuite ces femmes qui savent un peu aider ces personnes. Et Tommy l'a décrit dans ce livre.
Donc il a fait quoi, une enquête
pour... Oui, il a interviewé les femmes, raconté tout ce qui s'y passait. Et donc c'est devenu Schutzengel der Hölle, les anges gardiens de l'enfer.
D'accord.
Republié il y a quelques années sous le titre de SM.
Mais en fait, lui, il s'inspirait de son quotidien pour faire les livres.
Tout le nourrissait, tout, aussi bien pour faire ses livres pour enfants. Bon, il puisait aussi bien dans les histoires déjà traditionnelles. Allumette, par exemple, existait. Il a revisité certains contes, mais il en a créé de nouveaux. Après, le dernier qu'il a publié juste avant sa mort était très pessimiste. Donc, voilà, c'était très varié.
Et mais... on dit qu'un artiste, ben, ça a beaucoup de bas. Est-ce que c'est le vrai? Enfin, de phase de...
Ah, Tommy était souvent déprimé.
Voilà.
Tommy était... Il faisait des cauchemars toutes les nuits. Il arrivait souvent le matin, je le rencontrais... absolument fatigué de ses cauchemars. Mais il disait toujours, si mon ciel était toujours bleu, je ne pourrais rien publier. Il faut que j'aie une révolte en moi contre ce qui se passe. Il était un peu le Christ qui porte sa croix. D'ailleurs, quand Obama a été élu, il a fait un dessin très fort où on voit Obama qui porte une croix avec un drapeau américain. C'est un peu lui aussi, le Christ, qui porte sur lui les péchés du monde. Et ça, il les porte, il les sort à travers des livres. Donc, derrière chaque livre pour enfants, il y a une morale, toujours. Mais bon, après, il a publié des livres politiques aussi, très forts. Et puis, il a toujours eu des domaines pour lesquels il se battait, des causes pour lesquelles il se battait. Que ce soit la guerre, par exemple, il a fait les dessins les plus forts contre la guerre au Vietnam quand il était aux États-Unis. Également, une autre cause, c'était le racisme. Donc là, il s'est beaucoup battu à travers ses dessins. Ce qui lui a acquis la haine de la droite américaine. Tommy n'a jamais été bien vu par la classe politique américaine. Il a publié des affiches d'une force inouïe. Donc, ce qui fait que lorsqu'il va quitter les États-Unis, c'est un peu à cause de toute cette cette volonté des Américains de le combattre, parce qu'ils ne respectaient pas leurs idées extrêmes. D'ailleurs, lorsque De Gaulle reconnaît la Chine il y a 60 ans, comme les Américains ne pouvaient pas partir en Chine et que seuls les Français étaient autorisés à aller à Pékin, enfin en Chine en général, les journaux américains qui connaissaient bien Tommy lui disent « Tommy, tu vas nous faire un reportage ». Et Tommy, au moment de partir pour la Chine, il y a les affaires étrangères américaines l'appellent et lui disent « Tommy, vous ne partez pas en Chine, sinon vous ne revenez plus aux États-Unis ». Il faut dire que ces affaires, à ce moment-là, étaient aux États-Unis. Donc Tommy va revenir à New York et à l'aéroport, il va se faire arrêter comme dans un roman policier, comme dans un film violent. Il y aura trois hommes de la CIA qui vont l'entourer, des grands costauds, qui vont lui faire déposer les valises, l'emmener dans une pièce, le dénuder, lui ouvrir les chaussures, pendant 24 heures, une lumière dans la figure, l'interroger. Voilà, et c'est ça aussi, Tommy. Il paye son tribut à la lutte politique. C'est pas que dans les livres.
J'ai l'impression qu'il a vécu 1000 vies.
Ah oui, oui, il a... Tommy en a vécu tellement.
Par rapport à Tommy, tu l'as aidé sur la partie artistique et j'aimerais que tu nous en parles, comment tu as fait.
Oui, alors Tommy, évidemment, quand je le rencontre à Hambourg en 81, il est déjà l'Alsacien très connu aux États-Unis, en Allemagne, encore peu en France. Même en Alsace, encore relativement. Il commence à être connu et on travaille bien ensemble et on est toujours resté amis. À ce moment-là, je ne suis qu'un assistant et je ne joue aucun rôle. Mais un jour, il m'arrive de rencontrer, puisque Tommy était surtout connu pour ce livre pour enfants, ce livre érotique, politique, et peu, il avait des expositions, mais les expositions étaient surtout consacrées à son œuvre dessinée, pas à ses collages ou à ses sculptures ou à son œuvre peinte. Tommy peignait peu de... Il a fait encore aux États-Unis des huiles sur toile, mais dès qu'il est rentré en Europe, il n'a plus fait d'huile sur toile. Il faisait que du dessin. Beaucoup d'encre et... Il travaillait beaucoup sur du papier calque. Et donc, j'arrive à convaincre un jour le plus grand collectionneur d'Europe, M. Wurth, qui a 15 musées en Europe et 17 000 œuvres d'art. Et j'arrive à le convaincre, ça c'était en 2001, il y a 20 ans, j'arrive à le convaincre d'acquérir un premier ensemble de tableaux. Et quelques années plus tard, en 2005, il va faire la plus grande exposition de Tommy à Schwäbischhall dans un de ses musées. Plus de 400 ou 500 tableaux. Et là, il va acquérir pratiquement 400 tableaux, beaucoup, plusieurs centaines de tableaux. Et il y aura des articles dithyrambiques dans les grands journaux allemands sur Tommy Ungerer, artiste contemporain. Et c'est cette énorme, c'est la première fois qu'un musée privé va acquérir un nombre aussi important d'œuvres de Tommy Ungerer. Et aussi bien ses acquisitions par le groupe Wurth pour ses musées que tous les médias parus à l'occasion des grandes expos de Tommy chez Wurth vont donner un coup de fouet à sa carrière artistique.
400 œuvres, c'est énorme.
Oui, c'est énorme.
Mais il en a combien au total ?
Donc on pense en général que Tommy a réalisé, allez, on dit parfois 40 000. Wow. Ben Picasso, on considère que Picasso a fait tout de même entre 60 et 65 000 œuvres dans sa vie. Et pour Tommy, après, on n'a jamais vérifié. Il faudrait faire une recension de tout ce qu'il a fait.
Oui, c'est un travail minutieux. Et...
C'est un travail de bénédictin. Je crois que sa fille a commencé avec son mari à établir une liste. Mais comme Tommy a beaucoup vendu dans sa vie, ce sera difficile.
Même lui, il ne devrait même pas s'en rappeler, en fait. Si il pouvait nous en parler aujourd'hui, il se rappelle.
C'est impossible. Alors bon, le problème, c'est que d'un côté, il y a les originaux, et d'un autre côté, les multiples. Et les multiples, il y en a énormément.
Et il y avait des faussaires ou pas?
C'est pas tellement comme Dali. Dali, il y a énormément de faux. Tommy, il y a eu des faux. Un jour, j'ai acheté 4 tableaux à Munich à une vente aux enchères. Je les ai montrés à Tommy. Il m'a dit, mais ce sont des faux. Donc, alors que normalement, une maison de vente aux enchères ne rembourse jamais un achat, c'est fait point final. Là, comme j'avais une lettre de Tommy qui me disait que c'était un faux et que la réputation de la maison d'enchères était en cause, ils m'ont remboursé l'argent. Mais d'habitude, ça ne se fait pas. Donc, il y a eu des faux. Il y en a de temps en temps, on en voit l'un l'autre, mais il n'y a pas vraiment systématiquement des faux, des dessins.
Mais moi, je veux savoir, toi, quand tu es allé chez Muir, tu les connaissais ou tu es allé au culot?
Disons, c'est comme j'ai dit tout à l'heure. Le hasard a été toujours mon ami. J'avais organisé une grande manifestation culturelle à Karlsruhe sur le thème du paysagisme dans 20 ans, avec les plus grands architectes et paysagistes français. Et il m'a financé, il m'a donné 50 000 euros pour faire ce projet. Et quand je lui ai présenté le projet, quand il était fini, le pur hasard a voulu que ce jour-là, j'ai acheté tous les journaux qui parlaient des 70 ans de Tommy. J'ignore pourquoi, mais les journaux, les médias en général, quand un artiste, un écrivain a 70 ans, c'est en général l'âge où on fait les plus grandes manifestations. On écrit, on rend hommage, on fait, parce que peut-être à partir de 70, on considère qu'il y a des risques de mourir. Mais en tout cas, il avait 70 ans cette année-là. Et lorsque j'arrive chez Wurt, je dépose sur la table toute cette pile de journaux et je lui présente le projet que j'avais mené, les médias. C'était vraiment très passionnant. C'est dommage qu'on n'ait jamais fait de livre sur les actes de ce colloque. Toujours est-il qu'il voit ces journaux, il dit « Mais mon Dieu, tous ces journaux !» J'ai dit « Oui, non, mais ça, ce n'est pas le projet. On a eu quelques articles, mais pas dans tous les journaux internationaux. » Alors, il dit « Mais c'est qui alors ?» J'ai dit « C'est Tommy Ungerer qui fête 70 ans. » Il m'a dit « Quoi ? Et je n'ai pas encore une seule œuvre de cet artiste. Faites-moi des propositions. » Et donc, avec Tommy, on a préparé une liste de tableaux. Je lui ai montré et il a commencé par acquérir une centaine de tableaux.
Et après,
4 ans plus tard, avec ces tableaux, plus 400 nouveaux, il a fait l'énorme exposition, la plus grande que Tommy ait eue, la plus belle sûrement. Et donc là qu'il a eu toute la presse, que Wurt a acquis toute cette collection et qu'aujourd'hui, c'est le plus grand collectionneur privé de Tommy.
Il y a aussi un musée de Tommy Ungerer à Strasbourg.
Alors, il y a un musée à Strasbourg. Tommy a fait plusieurs donations. Enfin, il a donné 12 000, entre 10 et 12 000 œuvres à la ville de Strasbourg. Et la ville de Strasbourg lui avait promis un musée. Alors d'abord, c'était Pierre Flimelin, puis il y a eu Marcel Roudloff, et puis il y a eu Catherine Trottmann et Roland Ries. Et chacun des maires lui promettait un musée, mais aucun n'a tenu promesse. Il faut dire qu'il y avait eu à un moment donné aussi un homme des affaires culturelles à Strasbourg, Grandjean, qui n'aimait pas du tout Tommy et qui a mis beaucoup de bâtons dans les roues du projet. Et finalement, ça va être Robert Grossmann qui va décider de mettre le musée en place et qui a ouvert le musée. Robert Grossmann, qui est un grand homme de culture et qui, pour l'art contemporain, a été un maillon essentiel de notre patrimoine en art contemporain à Strasbourg aujourd'hui.
Mais il date de quand, le musée, je me rappelle?
Musée, 15 ans, à peu près.
Ah, c'est 15 ans, quand même. Donc, il a pu voir qu'enfin quelqu'un a tenu parole.
Oui, oui, voilà. Donc, ce musée, il a fallu le mettre en place. Il a changé de place successivement pour finir dans la Villa Greiner.
Moi, c'est bizarre, mais Tommy, je l'ai réalisé qui c'était que quand il est décédé, en fait.
Ah oui.
J'ai fait le lien entre...
Tout ça, voilà. Oui. Mais oui, on est souvent marqué par des choses dans sa jeunesse. Et le premier livre, pour beaucoup d'enfants, c'est souvent les trois brigands qui les marquent, qui leur font peur, comme tu as dit pour le géant d'Héralda, et qu'ils adorent. Le nombre d'enfants qui adorent le livre Les Trois Brigands est incroyable. Surtout qu'aujourd'hui, il est vendu, mais par millions d'exemplaires en Chine, en Amérique, partout dans le monde entier.
Mais est-ce qu'il a plus réussi à l'international qu'en France?
Il est plus reconnu en Allemagne et dans les pays germanophones qu'en France. Aujourd'hui même, à part l'Alsace, si tu parles de Tommy Ungerer à Bordeaux ou à Toulouse, les gens ne connaîtront pas trop, à part les instituteurs et les institutrices. Mais sinon, le grand public connaît peu.
Oui, parce que c'est marrant, moi je l'ai connu à l'école.
Oui, oui. Mais c'est ça, c'est les livres d'enfants.
Et on va repartir un peu sur ta partie et les questions que les gens ils adorent. C'est quel est ton plus grand défaut?
Mon plus grand défaut, je suis dépensier. Je suis une poche percée. J'arrive pas à économiser. Mais comme c'est pour partager les bonnes choses, les repas, les boissons avec mes amis, c'est en même temps une qualité.
Qu'est-ce que tu détestes faire dans tout ce que tu as fait? Il y a quelque chose qui ne te plaisait pas?
Quelque chose que je n'aime pas faire. J'aime pas trop marcher. Je suis très paresseux.
C'est-à-dire?
Je fais pas beaucoup de marches en ville. Je traîne un peu trop chez moi.
Ah bon? Quand même, t'as ta balade quotidienne?
Non, même pas. Des fois, je reste toute la journée ici, mais je commence. Je crois qu'il faut avoir quelqu'un à côté de soi qui aime la marche pour commencer à le faire. Et comme tout récemment, j'ai rencontré une personne extraordinaire qui aime marcher, je pense que je vais commencer à marcher.
Donc, tu détestes marcher?
Oui, oui. Qu'est-ce que je n'aime pas faire encore? Alors, je ne fais pas la cuisine. Je n'ai jamais fait la cuisine. Peut-être un œuf au plat encore, mais sinon, je mange au restaurant tous les jours.
Ça, c'est bien. Mais dans tes fonctions, par exemple,
la revue?
La revue, il y a quelque chose que tu n'aimes pas faire, l'administratif, peu importe?
Non, moi, ça ne m'a jamais dérangé. J'ai toujours aimé travailler, écrire, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là.
D'accord.
En plus, j'aime beaucoup les gens, moi. J'ai heureusement très peu de gens que je n'aime pas dans cette ville.
De toute façon, cette ville est tellement petite.
Oui, oui. Je n'aime pas les gens méchants. Mmh. Voilà. J'ai horreur des gens qui sont méchants. Et malheureusement, il y a dans la vie des gens méchants. Mais je ne donnerai aucun nom ici.
Non, on ne va pas commencer à faire de la délation. Est-ce que tu as une anecdote honteuse ou marrante à nous partager? Que tu as vécu, exemple, par rapport à ta carrière?
À ma carrière, d'abord, des accidents de voiture, parfois. Là, un jour, je suis allé faire une conférence sur Tommy en Allemagne.
Oui.
Et
moi j'ai la photo devant moi.
Il y avait devant moi un camion qui a tout d'un coup perdu sa charrette arrière, enfin sa remorque arrière, qui m'est rentré à 140 à l'heure contre ma voiture. Si j'avais une toute petite voiture, je serais mort immédiatement. Mmh. Mais heureusement, j'avais le grand modèle de Renault Espace qui a subi le choc de plein fouet. Et donc, on est rentré dans la glissière de l'autoroute. Et là, les trucs ont éclaté devant pour se protéger.
Les pare-chocs.
Oui, les pare-chocs. Et puis dedans aussi, je ne sais plus comment on appelle ça. Toujours est-il que je m'en suis bien sorti. Je suis sorti de la voiture. J'ai vu que j'étais vivant. J'ai fait une dépression. Bah, allez, une seconde. Et après, j'ai éclaté de rire. J'ai pris des photos, envoyées aux copains.
Ça, c'est une anecdote un peu triste. Hein.
Je m'en suis bien sorti. Après, bon, j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma carrière. La plus belle rencontre, sûrement, à part Tommy, aura été Anna Gavalda, la grande écrivain qui était venue faire une conférence à Kléber. Elle a signé pendant 3 heures d'affilée, Anna Gavalda. Et ensuite, elle voulait voir le musée Tommy, mais c'était trop tard. Et donc, François Wolfermann, qui est pour moi l'incarnation de la culture à Strasbourg, il fait venir tous les écrivains, une animation culturelle, mais qui est une chance inouïe pour cette ville. Il avait dit à Anna Gavalda, écoute Anna, tu n'as pas vu le musée, mais tu verras mieux que le musée. Donc, il l'a emmené ici. Du coup, j'ai organisé un petit dîner improvisé avec des amis. Elle est venue et elle a dit, oh, je suis épuisée, j'ai signé 3 heures. Je reste un petit quart d'heure. Elle est venue, elle s'est assise, on a commencé à manger, boire. À 3 heures du matin, j'étais obligé de la mettre à la porte parce qu'elle ne voulait plus partir. Donc, et puis, on est devenus les meilleurs amis du monde. Mmh. Elle m'a écrit sûrement les plus belles lettres d'amour que j'ai eues. Elle savait que j'aimais les garçons, donc c'était un petit jeu entre nous. Mais elle m'écrivait des lettres d'amour, mais je devrais les publier un jour.
Mmh. Faire une publication, un roman avec tous vos échanges.
Tout à fait.
Oui, elle a écrit énormément de bouquins. C'est une des personnes les plus connues.
Je l'aimais tant. Enfin, elle a un fan club à travers toute la France.
Bah oui. Et maintenant,
Depuis quelques années, elle n'a rien publié. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ignore.
Tu ne lui parles plus ?
Non, ça fait 2-3 ans. C'est avec le temps, il faudrait maintenir un lien. Mais...
Ouais, c'est pas évident. Tu as tellement de personnes autour de toi.
Oui, non. Mais j'ai rencontré à travers mes fonctions des gens extraordinaires. Aussi Philippe Claudel, qui est un écrivain que j'aime passionnément. Ou alors Dominique Fernandez, qui est membre de l'Académie française et qui, chaque fois qu'il venait faire une lecture à la librairie Kléber, il venait manger ici.
Mmh. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné ?
Le meilleur conseil qu'on m'a donné ? Alors, beaucoup d'écrivains, et Tommy en premier, m'ont dit, Robert, écris tout ce que tu as vécu. Et puis l'autre conseil que me donnent des psys, sois-toi, reste comme tu es.
D'accord.
Mais qu'on peut donner à tout le monde.
Oui, exactement. Et quelle personne me conseillerais-tu d'interviewer ?
Alors, il y a un artiste que j'aime beaucoup, qui a beaucoup créé. Malheureusement, c'est comme toujours, et des artistes ne sont pas toujours reconnus à leur juste valeur. Mais il y a un artiste qui s'appelle Raymond Émile Weidelich, qui vit à côté de Strasbourg, qui a 80 ans, qui est talentueux. C'est le seul artiste alsacien qui était présent à Venise, à la foire d'art qui a lieu tous les 2 ans. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Après, il y a 10 000 autres personnes qui ont des aventures, des récits. Il y a un gars qui est mort il y a quelques années, Camille Claus, qui lui aussi n'était pas assez connu. Mmh. Grand artiste qui avait vécu des choses fabuleuses. Un homme engagé, j'ai beaucoup aimé.
D'accord. Oui, il y a tellement de personnes.
Oui.
Mais là, des fois, je me dis qu'ils t'ont marqué, que je pourrais m'intéresser, que je pourrais contacter, c'est pour ça.
Si jamais j'en trouve d'autres, je t'écrirai un message.
D'accord.
Mais on en rencontre tous les jours des personnes fabuleuses.
ça.
Moi, j'ai de la chance d'être bien entouré, aussi bien chez les jeunes que chez les vieux, ou les personnes âgées. Moi, pour moi, l'âge ne joue pas un grand rôle.
C'est plutôt quoi, alors ?
La gentillesse ? C'est la tête, c'est la tête. C'est comment l'état d'esprit dans lequel on est, aimer les autres.
Mmh. Ok. On va finir là-dessus. Voilà. Okay. Merci Robert d'avoir participé à mon podcast.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste 2 minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant, tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.